Enjeux de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Le 16 et 17 mai dernier, s'est tenue à Lorient la 4e Biennale de l'égalité femmes-hommes en Bretagne. Ouverte au public, on pouvait assister à des conférences, des tables rondes ou participer à des débats et des ateliers, dans le but de s'interroger sur l'égalité des droits dans notre société. Radio Campus Rennes y était et nous avons rencontré différents acteurs de cette biennale, à commencer par Astrid Leray du cabinet de conseil Trezago. Ensemble, nous avons discuté des stéréotypes féminins et il faut l'avouer que dans notre société, ils ont la vie dure.
Les stéréotypes, ça fait souvent sourire les gens parce que quand on associe stéréotypes, caricature. Donc on pense en gros que c'est la grosse blague potache qu'on va faire à la machine à café et que tout le monde en rigole et que ça n'a aucune incidence. Or en fait, les stéréotypes, ils sont beaucoup plus traîtres que ça parce qu'en fait, ils se glissent partout. C'était dans le biberon à la naissance, vous avez eu les différents vaccins, les rappels, la gélule tous les matins que vous trouvez dans les publicités, les médias, les jeux pour enfants, le cinéma. Et tout ça, finalement, c'est plein de petits messages qui vont avoir un impact direct et sur vos propres attitudes. Qu'est-ce que vous osez ou pas faire? Qu'est-ce que vous osez ou pas accomplir? Et puis, les projections que vous faites sur l'autre. Et là, le risque, c'est toujours d'enfoncer les inégalités puisque vous tombez très vite dans les préjugés et donc la discrimination.
Waouh.
Et comment on fait alors pour lutter contre ces stéréotypes ?
C'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, quand on a voulu lutter pour l'égalité femmes-hommes, on a commencé à avoir des mouvements féministes, on a obtenu, difficilement, mais on a obtenu des lois, et aujourd'hui, on s'aperçoit que les lois ne suffisent pas. Parce que le problème aujourd'hui, c'est les mentalités, et donc les mentalités, c'est lié aux stéréotypes. Donc le problème, on ne peut pas décider de l'égalité. En fait, c'est bien ça notre problème aujourd'hui, c'est qu'il faut, il faut l'éducation. Il faut former les gens, il faut les sensibiliser, leur montrer que ce n'est pas juste une petite blague qui fait rire, mais que ça a bien une véritable incidence, et que si on montre une femme superficielle et gourde dans une publicité, et que c'est une image qu'on voit également au cinéma, et que c'est une image qu'on voit également dans les livres, et bien finalement, dans une entreprise, on aura du mal à lui faire confiance.
C'est dans cette optique-là que vous avez fondé Trezago en Normandie ?
Oui, alors Trezago, l'objectif, c'était vraiment de se dire que j'avais milité dans des associations, j'avais œuvré pour le droit des femmes. Et finalement, quand on est dans l'association, on œuvre beaucoup pour faire bouger les gouvernements et pour faire bouger les lois. Et que finalement, il y avait ce nouveau problème, c'était qu'aujourd'hui, on s'opposait aux mentalités. Et que ça, il fallait vraiment aller voir les gens, discuter avec eux, leur expliquer. Et qu'on est vraiment sur un travail d'éducation aujourd'hui.
On rappelle, Trezago, c'est votre cabinet ?
Voilà, un cabinet de conseil et de formation et qui accompagne toute structure le demandant. C'est-à-dire que j'interviens aussi bien en entreprise qu'auprès des professionnels de la petite enfance, qu'auprès des enseignants ou même en association auprès des collectivités. Les premiers textes féministes, c'est Christine de Pizan, c'est le 13e siècle, donc c'était vraiment il y a très très loin. Les premiers mouvements collectifs pour les droits des femmes, c'est la Révolution française, pardon. C'est 1840, c'est ensuite les féministes des années 70, et on s'aperçoit que finalement, quand on prend un texte d'Olympe de Gouges et que sur certains sujets on le lit aujourd'hui, il est encore complètement d'actualité. Donc on a vraiment du mal à évoluer. Et bien parce que si en effet les femmes ont accédé à l'éducation en 1880 et que les écoles étaient ouvertes aux filles, et bien avant on avait quand même des femmes qui n'étaient pas éduquées, dont le travail n'était pas valorisé, c'était un travail complémentaire, voire invisible, et qu'elles étaient maintenues dans la sphère familiale. Donc évidemment, l'éducation, c'est le nerf de la guerre. Si les femmes n'étaient pas éduquées, c'était facile après de dire qu'elles étaient idiotes et moins intelligentes que les hommes.
Oui, mais aujourd'hui, justement, l'éducation est la même pour les hommes et pour les femmes, et pourtant, les clichés, les préjugés comme quoi la femme a moins de capacité intellectuelle que les hommes, ça persiste encore. On peut encore entendre des gens, justement, dire que c'est normal qu'une femme n'ait pas le même salaire parce qu'il y a des différences et c'est pas le même travail, même si c'est le même.
Les lois pour l'égalité se mettent en place depuis une centaine d'années. Par contre, la domination masculine et le patriarcat, c'est depuis plus de 2000 ans. Donc évidemment, on a du mal à faire le contrepoids. Et quand en plus on sait que les stéréotypes finalement sont appris aux enfants dès leur plus jeune âge, à 3 ans, les enfants savent déjà qu'il y a des jeux pour les filles, des jeux pour les garçons, des métiers pour les filles, des métiers pour les femmes, des métiers pour les hommes. Ils savent également, s'ils sont un petit garçon, qu'il faudrait mieux pas trop aller vers les trucs de filles, parce que c'est gnangnan, c'est rose, et de toute façon, c'est c'est dévalorisé. Et donc, ils ont déjà fait un apprentissage. Et puis après, il y a la piqûre de rappel à l'école, où en fait, les petits garçons sont plus valorisés. Il y a le rappel au sport aussi, où finalement, on va pousser les garçons à la compétition, à la confrétention, le foot, le grand terrain, on court, on se confronte aux autres. Alors que la petite fille, elle va être sur sa barre de gym, ou à faire de la danse, à être dans un exercice individuel où on lui demande d'être dans la grâce et l'élégance. Donc c'est plein de... L'enfant, et le garçon et la petite fille ne vivent pas sur les mêmes chemins, ils ne vivent pas la même histoire. Et donc après, c'est très difficile de les réconcilier.
Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment par le biais d'associations, d'organismes, pour essayer de gommer un peu ce fossé entre petits garçons et petites filles. Je pense notamment au domaine de l'édition, où il y a beaucoup de maisons d'édition qui commencent à sortir des ouvrages où la petite fille est plus juste habillée en rose, où c'est plus juste une princesse douce et mignonne, ou une petite fée avec des ailes. Mais est-ce que vous pensez que aujourd'hui, la société, notre société en France, est prête à accepter justement ce type d'édition, parce qu'on va avoir des parents qui veulent ça, donc qui vont faire le choix d'acheter ces livres-là. Mais est-ce que majoritairement, aujourd'hui, on peut dire que la population française, elle est prête à accueillir ce genre de publication ?
Alors, je pense que les mouvements réactionnaires ont toujours existé. C'est quelque chose qui, quelle que soit l'époque, la période... Voilà, ça a toujours existé et ça existera toujours. Après, moi, je crois en l'envie des gens d'apporter le meilleur développement possible à leurs enfants et de leur laisser utiliser tout leur potentiel. Donc, je pense qu'à partir du moment où on sensibilise les enseignants, on sensibilise les crèches, on sensibilise les parents, ben, ils auront envie de donner le meilleur à leurs enfants. Le tout, c'est de comprendre l'incidence de ce manque de modèle pour les petites filles, de cet engagement toujours pour les petits garçons, pour le sport, la compétition, le dépassement de soi, et pas pour la verbalisation et le relationnel.
Astrid Leray, le fait gommer les stéréotypes, une personne dans le cinéma qui le fait de la meilleure façon qu'il soit, ne serait pas par hasard quelqu'un comme Guillaume Gallienne avec ce film Guillaume et les garçons à table ?
Bah, c'était une façon brillante de montrer justement, d'aborder la question de genre, parce que c'était fait avec beaucoup de finesse et beaucoup d'humour. Et c'est intéressant que vous parliez de cinéma, parce qu'au cinéma, le film de Guillaume Gallienne on a bien parlé en France et c'était très intéressant. Mais globalement, on sait qu'en France, et même aux États-Unis, si on regarde les box-office, ce sont essentiellement aujourd'hui les super-héros qui sont mis en devant, des héros masculins. Et il y a une étude dernièrement qui montrait que sur les films de les meilleurs films de 2005 à 2011, on avait 30% des personnages à texte étant des femmes. Donc vous voyez bien
des
personnages à texte.
Ah oui, à texte, d'accord.
Donc on a 70% de femmes qui sont là pour faire décoration et mettre en valeur le héros. Ouais. Bon, et après, on peut détailler aussi sur le nombre de personnages femmes en tenue sexy, voire partiellement nues au cinéma. Donc on aimerait avoir plus de Guillaume Gallienne au cinéma. Ouais.
Nicolas Barre est quant à elle une ancienne joueuse de football professionnelle et elle a été missionnée par l'État pour la mise en œuvre de l'ABCD de l'égalité. Elle nous explique ce qu'est ce dispositif et nous donne son regard également sur l'évolution des droits des femmes.
En partant de ma pratique de sportive de haut niveau, parce que j'ai été plusieurs fois effectivement en équipe de France, championne de France, j'ai travaillé dans des clubs sur le plan amateur en tant qu'entraîneur. Et en 1996, il y a eu une décision d'exclusion de toutes les équipes féminines du club du Plessis Robinson dans les Hauts-de-Seine. Sous prétexte que les filles voulaient monter et que le club ne voulait pas donner les quelques francs qui étaient nécessaires pour faire monter une équipe en nationale. Donc voilà, ça s'est mal terminé, c'est un conflit qui n'a pas été bien géré. Et finalement, si, parce que du coup, ils nous ont mis dehors, ils ont pris une décision en assemblée générale, on a fait un procès qu'on a gagné. C'est une jurisprudence française, voire même européenne, parce que c'était la première fois que des femmes, des parents de filles, de petites filles, osaient dire que c'était pas normal, que c'était injuste, qu'on était dans un monde où, normalement, dans une association de 1901, tout le monde doit pouvoir exister et qu'on partage la richesse, on partage aussi la misère. Et partant de là, ce procès, on l'a mené jusqu'au bout, il a fallu 5 ans pour gagner, mais on a gagné. Mais quand je me suis rendu compte qu'on avait fait exister les textes, et qu'on pouvait donc du coup être fiers quand même de notre bandeau, liberté, égalité, fraternité, on devrait dire sororité aussi, puisqu'il faudrait peut-être aussi faire évoluer notre devise pour vraiment l'apporter au front. Je me suis dit, mais est-ce que tu as vraiment changé le monde avec cette décision ? Donc j'étais très fière quand même. Hein. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut changer le monde ? Ben, les enfants. Donner les possibilités aux enfants de vivre le monde différemment demain, de ne pas avoir à se battre les uns contre les autres, de ne pas avoir à perpétuer ce modèle de domination des hommes sur les femmes, d'être toujours dans les rapports de pouvoir. Moi, je voulais pouvoir promouvoir l'idée que chacun et chacune peut s'exprimer, se construire, s'épanouir avec tous les possibles, et qu'ensuite il fasse ses choix individuels. Et qu'ensuite, ces choix individuels servent évidemment le choix de la société. Donc voilà, je suis partie du foot, du corps, de l'espace, de ce bonheur de jouer qu'on doit pouvoir partager. Et ensuite, j'y ai additionné des outils comme la verbalisation, la mise en mots pour les enfants, c'est important, le dessin, le chant, la musique. Voilà, j'ai créé un espèce d'outil où il y avait effectivement plusieurs entrées qui permettaient d'aller vers les enfants et de leur montrer que, en fait, c'est pas toujours ce qu'on leur dit qui est la vérité, qu'ils ont peut-être aussi le droit de le remettre en question pour être vraiment eux-mêmes. Et ça a produit, après une rencontre avec Najat Vallaud-Belkacem en août 2012, où je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer, en plus détaillé, mais en tout cas, de la même manière, ça a produit, après cet entretien d'une heure, qu'elle est allée voir M. Vincent Peillon, ministre de l'Éducation, et qu'elle lui a dit « mais il faut travailler l'éducation et l'égalité dès le plus jeune âge, hein, parce que c'est là que les choses commencent, c'est là que les choses se construisent, et c'est là qu'on en a plus de chances d'avoir un pouvoir d'action réel pour changer la société de demain. » Et Vincent Peillon, il a dit oui, il a pris. Et depuis le 1er septembre 2013, sur 10 académies, on a mis en place ce dispositif qui s'appelle l'ABCD de l'égalité. Voilà, 10 académies, 600 classes, l'objectif, aller vers les adultes, parce que avant de toucher les enfants, les élèves, c'est nous tous et toutes qu'il faut remettre en question partout et tout le temps, les adultes.
Justement, vous parlez de la BCD de l'égalité, et ça, il a fait beaucoup de bruit, notamment avec ses détracteurs qui l'assimilent à la théorie du genre. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans la BCD de l'égalité ? Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Alors déjà, on y trouve une séance, des séquences de formation. Quand vous interviewez pour les gens qu'on a vus là, donc je vous dis 600 classes, enfin, après 600 enseignants, hein, vous leur demandez s'ils ont été formés hein, dans leur parcours professionnel à la thématique égalité filles-garçons, 95% vous disent non. C'est-à-dire que ce qui est affiché comme une priorité, comme un objectif dans les programmes d'éducation nationale, dans les textes de loi depuis 30 ans, n'est pas travaillé en tant que tel à l'école, considérant très certainement que la posture républicaine ancrée au cœur des enseignants est suffisante et qu'ils sont eux-mêmes convaincus qu'ils la mettent en œuvre, cette égalité-là, et qu'ils en sont les porteurs et qu'ils sont bien plantés dans ce rôle-là et qu'ils ne font pas d'erreur. En fait, l'idée, c'est de les amener, et c'est là que c'est intéressant. Vous avez un employeur qui est l'État qui dit à ses fonctionnaires, vous allez à l'information, mais en fait, quelque part, je vais vous demander de vous remettre en question sur votre intime. Ça, c'est original. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'avoir une posture professionnelle différente si déjà, à titre personnel, cette personne n'a pas accepté de tourner le regard vers soi et de se dire, bon, en quoi moi je suis concerné à titre personnel ? Parce que sinon, vous restez dans la résistance. Donc, montrer statistiquement la situation de la société d'aujourd'hui. Caroline Dehaas, elle est affichée là-haut, je suis montée à l'auditorium, qui a travaillé sur le diaporama présenté au ministre, où Madame la ministre des Droits des Femmes a voulu former tous les ministres, tous les cabinets des ministres, tous les recteurs, tous les personnages de l'État sur cette thématique en leur disant, voilà, tout le monde dit qu'on a gagné, tout le monde dit que c'est bien, l'égalité homme-femme, ça a vachement progressé, tout va bien. Et ben voilà, on va vous montrer des chiffres. Là, c'est pas mon émotion, mon ressenti, les chiffres. Les différences de salaire, les postes à responsabilité, les femmes dans les élus, la différence de travail hebdomadaire, la retraite, voilà, toutes ces inégalités qui sont absolument à remettre en question. Donc ça, leur faire toucher ça du doigt. Et là, déjà, quand vous leur montrez ça, ce sont des cadres, hein, tout de suite le débat s'engage et tout de suite ils commencent à dire « je ». Et donc je dis que dans ces formations-là, il faut laisser du temps au bavardage. Donc déjà, commençons d'abord par montrer la réalité, faire parler les gens de cette réalité, c'est-à-dire qu'ils l'acceptent. La deuxième chose, c'est de leur montrer les conséquences au sein de l'éducation nationale de cette inégalité. Je vous conseille, je dis à tous vos éditeurs, d'aller sur Internet, taper Collège de France, la conférence de Pascal Huguet sur les stéréotypes, l'éducation stéréotypée, et d'y regarder cette conférence, notamment de la 25e à la 35e minute, 10 minutes, où vous avez des élèves en totale réussite, filles et garçons. Vous leur faites passer un test en leur disant que vous attendez des résultats différents entre les filles et les garçons. Et dans un premier temps, vous leur dites que c'est des maths. Et dans un deuxième temps, vous dites que c'est du dessin. Quand vous dites que c'est des maths, les garçons réussissent incroyablement bien. Les filles ne réussissent pas. Quand vous dites que c'est du dessin, les filles réussissent incroyablement bien. Les garçons ne réussissent pas. Et là, j'interroge les enseignants, quand ils voient cette vidéo, ils sont stupéfaits. Parce que c'est le fruit de notre travail, tous à l'extérieur, mais aussi de l'éducation nationale. Et quand vous voyez ça, la plupart sont atterrés. Et j'en ai même entendu dire, mais c'est effrayant. Parce que ça veut dire que la performance produite par un individu est fonction de ses croyances, sur le fait qu'il soit une fille ou un garçon et non pas sur ses compétences. Ça veut donc dire aussi que depuis des années, on a une éducation nationale qui travaille remarquablement bien, qui leur apprend à lire, à écrire, à compter, à être brillant dans plein de domaines, et à la sortie, quand vous leur posez une question, ils vous répondent en tant que fille ou en tant que garçon. Rendez-vous compte du gâchis de talent et du gâchis d'investissement. C'est ça, les ABC d'égalité. D'abord, travaillons sur le fait que je sois impliquée, concernée, et que je veuille bien me remettre en question. Et quand vous leur montrez ça, les enseignants, ils se remettent en question. Et là, on a gagné. Et puis derrière, on amène des outils, des entrées pour les amener à être face à la classe, soit avec des entrées marquées ABCD d'égalité, soit tout simplement être vigilant sur une dictée, être vigilant sur un énoncé de problème, être vigilant sur les photos que j'utilise, être vigilant sur tout ce qui peut être présenté aux élèves comme étant normal et en étant finalement en situation de reproduire un continuum des stéréotypes éducationnels qui ne nous posent problème que quand ils fabriquent du handicap. Pour faire le lien avec le début de votre question.
C'était le groupe La Femme avec le titre « Si un jour ». Vous écoutez Enjeux de santé sur Radio Campus Rennes pour cette émission retour sur la Biennale de l'égalité femmes-hommes qui s'est tenue à Lorient le 16 et 17 mai dernier. Et donc, après avoir interrogé des femmes qui œuvrent pour faire évoluer les mentalités, quelle est la situation dans un milieu spécifique ? Prenons l'exemple du monde de la recherche scientifique. La parité y est-elle respectée ? La recherche scientifique a-t-elle un sexe ? Si disparité il y a, d'où viennent-elles ? Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé Rosane Texier-Picard, mathématicienne à l'ENS Rennes et vice-présidente à la parité et à la diversité.
Si on parle du monde de la recherche en mathématiques, oui, ça reste un monde quand même globalement masculin. Après, ça dépend un peu dans quelle branche des mathématiques. Plus on va vers les mathématiques appliquées, plus les femmes sont présentes. Et plus on va vers les mathématiques fondamentales, plus c'est masculin. Alors par contre, après, si on pense aux étudiants, c'est vrai que les garçons sont majoritaires aussi, enfin les jeunes hommes sont majoritaires par rapport aux jeunes femmes chez les étudiants, mais c'est pas une question de compétences, on va dire. Je suis persuadée que les jeunes filles ont autant de talent et de compétences que les hommes pour les mathématiques. Et elles y ont du goût en général, mais simplement elles y sont pas forcément poussées parce que elles se représentent pas les métiers qu'elles peuvent faire après des études de mathématiques. Elles se projettent pas dans ces métiers-là, dans ces carrières-là. Donc il y a tout un travail d'information à faire de notre part.
Et voilà. Et comment expliquer cette différence entre la part d'hommes et de femmes, comme vous disiez, en mathématiques appliquées et mathématiques fondamentales ? Est-ce qu'il y a une explication à ça ?
Alors l'explication que j'ai envie de donner, c'est que globalement les femmes recherchent plus que les hommes une utilité sociale dans leur vie professionnelle. Donc c'est vrai qu'elles vont plus facilement s'orienter vers des disciplines appliquées pour essayer d'approcher cette utilité sociale.
J'ai fait quelques recherches et j'ai remarqué par exemple que dans l'Académie des sciences, sur les 240 académiciens, il y a moins de 10 femmes. Donc est-ce que la recherche, que ce soit en France ou même dans le monde, est sexiste ?
On peut dire oui, au sens en tout cas de ce que vous venez de présenter comme exemple. Effectivement, tous les chercheurs qui sont les plus réputés, qui sont primés, sont presque toujours, ou sont en tout cas beaucoup des hommes. Les femmes dans leur carrière de recherche souvent évoluent moins vite et progressent moins que les hommes, hein. C'est le même phénomène de plafond de verre qu'on observe dans beaucoup d'autres secteurs professionnels. Alors c'est pas forcément du sexisme, on va dire mal intentionné. Il peut y avoir beaucoup de causes. Beaucoup de facteurs qui expliquent ça. C'est aussi de l'autocensure des femmes, souvent, qui ne cherchent pas à avoir des promotions, qui ne cherchent pas à avoir des prix. Donc voilà, il y a plein de facteurs et c'est difficile de répondre en quelques minutes à cette question.
Et justement, comment améliorer, l'envie que pourraient avoir les femmes à faire de la recherche ?
Je crois qu'il faut agir sur beaucoup de facteurs. D'abord, améliorer leur visibilité, par exemple, dans les colloques, dans les conférences. Très souvent, quand on veut faire intervenir des gens prestigieux, on va chercher des hommes et on ne va pas beaucoup chercher des femmes. Or, des femmes talentueuses, il y en a aussi. Donc, il faut leur donner plus de visibilité pour susciter aussi chez d'autres femmes l'envie d'avancer, de réussir. Il y a sûrement tout un travail à faire au niveau de la parentalité aussi, hein, parce que les femmes, on le sait bien, quand elles ont des grossesses, des congés maternité, ça pénalise souvent leur carrière par la suite. Donc là aussi, dans un milieu qui reste très masculin, il y a beaucoup à faire pour améliorer les choses de ce point de vue-là.
Dans les différentes statistiques qui existent, on remarque qu'au lycée, il y a une égalité, on va dire, entre les filles et les garçons pour ce qui est des filières scientifiques, mais qu'arrivé en études supérieures, on remarque qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Donc y aurait-il un travail à faire au lycée, justement, pour améliorer cette diversité dans les études supérieures ?
Alors d'abord, je crois qu'il faut distinguer, quand on parle des études scientifiques de façon très générale, c'est difficile de donner des chiffres, parce que selon qu'on est du côté des sciences de la vie, par exemple, où là, les femmes sont majoritaires, ou du côté des sciences de l'ingénieur, où elles sont très minoritaires, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Donc c'est certain, il y a en tout cas... pour ce qui est des mathématiques, de l'informatique, des sciences de l'ingénieur et de la physique, il y a une faible représentation des femmes chez les étudiants, alors qu'elles sont effectivement, qu'elles ont des bons résultats au lycée et au bac. Il y a tout un travail de sensibilisation à faire, et c'est un travail, il faut agir, je dirais, au niveau des représentations, c'est très culturel, donc c'est quelque chose qui est de longue haleine et qui est forcément complexe.
Enfin, que dit la science sur les différences femmes-hommes ? Catherine Vidal est neurobiologiste à l'Institut Pasteur et elle s'intéresse particulièrement aux préjugés et aux idées reçues sur les différences entre les hommes et les femmes. Mais les études faites sur le cerveau montrent bien qu'il n'existe pas tant de différences que ça.
En ce qui concerne le développement du fœtus, il n'existe pas de différence entre les cerveaux des fœtus mâles et femelles. Il existe en fait très peu aussi de différences au niveau corporel. Hein, quand vous voyez à la naissance, c'est plus tard que les différences entre garçons et filles vont se marquer. Et en ce qui concerne le cerveau, il faut bien voir que la façon dont le cerveau va se développer est très différente de celle dont le corps va se développer. Par exemple, le corps chez le bébé, bon, quasiment tout est déjà fait. Bon, c'est petit, hein, il y a un petit cœur, il y a un petit intestin, un petit estomac. Ensuite, ça va grandir. Alors que le cerveau, lui, c'est pas du tout le même processus. Le cerveau, lui, est vraiment pas terminé. Parce que le petit humain arrive au monde avec 100 milliards de neurones. Et à ce moment-là, les neurones cessent de se multiplier. Mais seulement 10% d'entre eux sont connectés. Hein, ce qui explique d'ailleurs que le petit bébé, il ne peut pas faire grand-chose tout seul. Hein, il est loin d'être autonome. Donc, 90% des milliards de connexions du cerveau de l'enfant se fabriquent à partir du moment où il vient au monde, à partir du moment où il est en interaction avec l'environnement. Et c'est ce phénomène d'interaction qui va façonner son cerveau. Et voilà pourquoi tous les individus sur Terre ont des cerveaux différents, parce que chacun de nous a une histoire qui lui est propre. Et donc nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre, ça veut dire 7 milliards de personnalités différentes et 7 milliards de cerveaux différents. Et les différences qu'on peut observer entre toutes les personnes, et en particulier entre les personnes d'un même sexe, sont plus importantes que les différences entre les sexes.
Vous parliez il y a quelques instants justement de préjugés, de stéréotypes entre les hommes et les femmes. Je pense notamment au fait que les hommes auraient un meilleur sens de l'orientation, les femmes seraient plus douées au niveau du langage. Et dans vos recherches, vous expliquez le phénomène de plasticité cérébrale qui justement tord le cou finalement à ces idées reçues, puisque la plasticité cérébrale, si j'ai bien compris, finalement démontre que c'est l'éducation et la pratique qui vont orienter nos compétences et nos savoir-faire plutôt que notre sexe. C'est bien ça ?
Oui, vous avez donné la réponse en même temps que vous avez posé la question.
Bravo.
Bon, ce que je peux vous dire, c'est que l'idée que les petits garçons seraient, depuis la naissance, nés avec un cerveau câblé pour être bon en maths et en sciences, et les filles avec un cerveau fait pour les langues et la littérature, ça, c'est une notion à nouveau qu'on avait il y a 50 ans. Et qui maintenant est complètement désuète, en particulier parce qu'on a des nouvelles techniques d'exploration du cerveau, comme l'imagerie cérébrale par l'IRM, qui montrent vraiment, on peut vraiment voir le cerveau qui se modifie dans sa structure en fonction des apprentissages. Et donc, si au moment des choix d'orientation scolaire, soi-disant, les garçons auraient plutôt la bosse des maths et pas les filles, ça, c'est un conditionnement qui est lié à l'environnement et qui est lié à une longue histoire où déjà, au départ, les filles ne faisaient pas d'études scientifiques, puisque, comme vous le savez peut-être, l'éducation n'était pas équivalente au début du siècle pour les filles et pour les garçons. Il a fallu des luttes pour que les filles puissent avoir accès dans les années 30 à un baccalauréat qui puisse être le même que celui des garçons et ensuite pouvoir accéder à l'université, parce qu'avant leur bac ne leur permettait pas d'accéder à l'université. Donc la question de l'éducation des filles et des études qu'elles pouvaient suivre, bon, maintenant on a l'impression que c'est évident que tout le monde puisse suivre les mêmes cursus, ben avant c'était pas du tout comme ça. Et donc, hélas, on a toujours maintenant énormément de retard pour justement faire en sorte qu'il y ait suffisamment de filles, enfin un peu plus de mixité dans les métiers d'ingénieurs, les métiers scientifiques, où il y a toujours à peine 20% de filles.
C'est la fin d'Enjeux de Santé, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver en podcast l'émission ainsi que les émissions précédentes sur radiocampusrennes.fr et vous pouvez également retrouver des informations complémentaires sur le sujet de l'émission. Quant à moi, je vous dis à une prochaine pour un nouveau numéro d'Enjeux de Santé. Salut à tous.